Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon norme WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Vous écoutez
RMC.
Les drôles de dames vous attendent au 32-16. Il est 20h01, vous êtes sur RMC.
RMC.
Ouais, juste pour conclure, il y a une phrase célèbre dans le foot.
C'est insupportable. La poste vient de voir, tu reçois un mail en disant faut le noter. Ça, tu regardes un film, on te dit s'il a plu, faut le noter. Ben, allez vous faire voir, les gars.
Di Maria, il est tout seul. Di Maria, t'es nul. Mais t'es nul, Di Maria. Il a frappé au-dessus, Di Maria. Di Maria, tu es nul.
The best league in the world. Come on, the Premier League. Every single day.
20h-22h, Génération After,
Nicolas Villas.
Et l'After est là, comme chaque soir et comme chaque lundi. Vos drôles de dames sont là. Qui dit trêve internationale dit semaine spéciale ce lundi. Nos drôles de dames vont vous donner leurs souhaits et leurs avis pour l'Euro qui débute le 14 juin. Avec nos drôles de dames, on va aussi se mettre dans la peau de celui qui anime déjà le mercato des entraîneurs, Xabi Alonso. Et si vous étiez l'actuel entraîneur des Leverkusen, vous feriez quoi la saison prochaine? Venez jouer à ce petit jeu avec nous. Et puis on vous attend au 32-16 et sur le chat de la chaîne YouTube de l'After Foot pour poser vos questions également. Merci d'accueillir celui qui aime autant les pâtes que la pâte de Zerbi, qui aime saucer Mota autant que la bolognaise. Salut Johan Crochet.
Salut Nico.
J'ai eu peur de crocher un moment justement. Mais
t'as dit saucer Mota?
Ouais, j'ai dit saucer.
Alors la bolognaise. La bolognaise plutôt à ragoût.
Oui, mais enfin, sous le pain, il entraîne Bologne, il entraîne pas ragoût, donc j'y peux rien.
Oui, mais bon, on dit pas la bolognaise.
Mais Lucas passe son goût.
Voilà.
Il a mis 3 points.
La prochaine fois, je dirai des trucs méchants. Depuis qu'il a quitté l'Espagne, la Fédé va de crise en crise. Zidane ne veut plus entraîner. Il se dit même que Xavi attend son appel pour trancher sur son avenir. Fred Hermel.
Hola, Chicos.
Comment il va?
Bah pas mal aujourd'hui, ouais.
Ouais.
Ouais, ça va, je me suis remis ma petite goutte là et tout ça, je commence à courir. Ouais, c'est des trucs de vieux, tu sais, donc.
Je sais ce que c'est. Enfin non, j'en sais rien en fait. Mais... Si Southgate était une sortie du périph, il ferait tout pour l'éviter. Heureusement qu'il est une star au Royaume-Uni. Il roule même en Aston Martin, parité. Salut Julien Laurence.
Salut Nico, salut à tous.
En fait, je voulais
encore pour l'Aston Martin.
Bah, je voulais lancer, je me souviens jamais comment s'appelle le frère de l'actrice là, qui t'a reconnu.
Ah, Alfie Allen,
le
frère de Lily Allen. Ouais,
mais moi, ce qui m'a vraiment choqué, c'est quand il a fait 2 bises à Jesús Pérez.
Ah, c'est un bon souvenir. Sur le banc, bien sûr. Ouais. Ne lui parlez pas d'Aston Martin. Pour lui, la voiture se résume en 3 lettres. BMW. Selon nos informations, il a tellement kiffé le France-Allemagne qu'il ne quitte plus son maillot rose. Salut pour le Breitner.
Bonsoir mon cher Nico, bonsoir tout le monde. C'était presque parfait. Il y a juste un mot à enlever, c'est le mot kiffer qui me fait saigner des oreilles à chaque fois que je l'entends.
Il a tellement hypé par le dernier France-Allemagne, c'est mieux, non?
Tu peux essayer de le franciser aussi.
Bon, il a tellement aimé, voilà.
Puis c'est pas les BM, Polo, c'est plutôt les Trabant, non?
Ah non, lui, justement, c'est une révélation qu'il nous a faite l'autre jour. Il est fan de BMW.
C'est vrai, je n'ai eu que des BMW.
Ah ouais? Ouais.
Ma première bagnole, je suis endetté pendant des années, c'était BMW. Une 328 IS coupée.
Ah ouais. Si vous vouliez tout
ça. Pas le même monde. Hein. Moi, c'était l'R5, le 5 de ma mère. Hein.
Il est aussi bon qu'un Chanel, aussi beau qu'un Hermès. Et il sent aussi bon que le pur essentiel. Salut Nico Jamin. J'essaie de rattraper le coup.
Excellent produit pur essentiel. D'ailleurs.
Excellent.
Je tiens à le dire.
Je sens très bon. D'ailleurs, t'en as pas mis toi aujourd'hui?
Tout à fait, Nico. Tous les matins. C'est mon déo. Non, mais. Pas mal, hein?
Ouais, c'est pas mon genre, mais.
T'as rien senti, arrête.
Ah non, j'ai rien senti, c'est pour ça, c'est pas mon genre.
Alors, quel est le programme à partir
de 22h? Alors, demain soir, France Chili, nos infos compo probables, on va en parler. Mbappé sera titulaire. Avis tranché de Daniel également, qui estime que le match, la défaite contre l'Allemagne, est le symbole de la faillite technique du football français. On n'a pas la maestria espagnole, on n'a pas la maestria anglaise. En Italie aussi, t'es pourvu en joueur créatif.
Tu cherches un peu, Nico, quand même. Hein,
en tout cas, on galère. Au milieu de terrain, notamment quand Griezmann n'est pas là. On va en parler. Flo veut que Deschamps sorte du placard le 3-5-2 en équipe de France pour aider Marcus Thuram. Bien trop seul, il veut le voir façon Inter Milan, aidé par un équivalent Lautaro Martinez. Je ne sais pas si on a ça en boutique. On va lancer également le classico de dimanche soir. Marseille PSG. Marseille était trop affaibli pour espérer quoi que ce soit dimanche face au PSG. Défense décimée. Ce sera à partir de 23h. Et puis on va aussi évoquer le procès Saïd Chaban, propriétaire d'Angers, qui a ouvert aujourd'hui affaire de blanchiment. Est-ce le symbole ou un symptôme des dérives du football actuel? Ce sera dans l'after avec Daniel Riolo et Flo Gautreau ce soir.
Merci beaucoup Nico, c'est parti avec les drôles de dames. Tiens, juste avant ça, sachez que c'est le retour du coffre RMC. On vous offre jusqu'à 50 000 euros dès que vous entendrez ce signal. Est-ce qu'on l'a ? Ah bah là, il y aura un signal, ce sera l'alerte son coffre. Vous aurez 5 minutes pour envoyer coffre au 7-32-16 le vendredi 29 mars. L'un ou l'une d'entre vous sera avec nous dans l'émission pour ouvrir le coffre. Si vous êtes sélectionné, vous repartirez avec 2500 euros, mais vous pourrez remettre la somme en jeu en ouvrant le coffre RMC. Si vous osez l'ouvrir, vous gagnerez soit une semaine de vacances dans un des campings Taycan en France pour 6 personnes, soit la somme de 50 000 euros. Envoyez coffre au 7-32-16. Attention, l'alerte, elle peut intervenir n'importe quand, y compris pendant les pubs, donc restez bien à l'écoute. Tiens, Foussouve, comme on dit dans le jargon, mon polo, est-ce que ça y est, la National Mannschaft tient son match référence après le 2-0 là, face aux Bleus là.
On peut voir comme ça. Ce qui est sûr, c'est de là d'où partait l'Allemagne, remporter en France cette rencontre d'une façon convaincante et technique. C'est ça qui est quand même très important. Avec un Nagelsmann qui a trouvé un nouveau schéma de jeu en 4-3-2-1, il faudrait expliquer et voir un petit peu ce que le positionnement de Gundogan sur le terrain. C'est évidemment quelque chose d'assez extraordinaire lorsqu'on voit, qu'on part avec les matchs face à la Turquie ou face à l'Autriche, par exemple. Maintenant, je constate que c'est la deuxième fois à la suite que l'Allemagne bat la France. C'était au mois de septembre et qu'après ça s'était écroulé aussi. Donc on va attendre un petit peu avant de s'emballer, mais ce qui est sûr, c'est que le grand gagnant de cette rencontre, c'est pas un joueur, même s'il y a Toni Kroos, le retour de Toni Kroos, etc. C'est surtout Nagelsmann qui a envoyé un message aux 80 millions de sélectionneurs allemands en leur faisant comprendre, c'est moi le boss, regardez ce que j'ai fait. Et c'est un peu la théorie que je disais ce week-end. Il a fait plus pour moi un acte politique qu'un acte sportif, puisqu'il a complètement dégradé la génération intermédiaire, ceux qui ont 26 ans, 28 ans. Le boss, le nouveau boss, c'était l'ancien, c'est Toni Kroos, 34 ans. Et les boss techniques, c'est aussi la jeunesse avec Moussiala et Wirtz devant. Le reste, ce sont des besogneux. Kimmich, tu n'es plus une star, tu es un arrière-droit, tu dois faire ton boulot, et voilà. Donc on aura Neuer dans les buts, les anciens, champions du monde encore, hein, en 2014, et puis la jeunesse. Mais la génération intermédiaire, et je pense que moi, c'est un énorme message qu'il a envoyé, il a fait sa sélection, quand je dis sélection, il a éliminé des personnes, et je pense évidemment, encore une fois, à confirmer, notamment contre les Pays-Bas, mais tout ça part d'un, j'ai pas envie de dire d'un bon sentiment, mais de là d'où on vient, c'est quand même important pour la National Mannschaft de remporter ce genre de rencontre. Pardon.
Et ce match face aux Pays-Bas, ce sera demain. Demain, ouais. Il y aura le match également entre la France et le Chili. On est à quelques semaines de l'Euro. Hein. On vous a demandé, cher drôle de dame, vos avis, vos souhaits pour l'Euro pendant cette trêve internationale. L'Angleterre, finaliste de la dernière édition, vient de perdre en amical face au Brésil. Julien, on t'a demandé ton souhait, ton avis. Quelque chose me dit que ça porte sur ton pote Gareth Southgate.
Non, mais moi, je lui souhaite le meilleur, vraiment. C'est fini après, c'est fini. Son contrat expire en décembre 2024 déjà. Il est déjà... On en parle beaucoup du côté de Manchester United parce que Sir Jim Ratcliffe et Sir Dave Braceford sont des grands fans de Gareth Southgate, donc ça s'arrêtera. C'est la dernière compétition, il est passé très près contre l'Italie, assez proche à la Coupe du Monde 2018. Moi, j'ai envie que les Anglais gagnent. C'est pas que ce soit les Français ou les Anglais qui gagnent, ça m'arrangerait bien. Donc, je lui souhaite le meilleur, vraiment. Je préférais qu'il soit pas là, mais il est là. Il sera encore là à l'Euro. Donc, malheureusement, à ce niveau-là, je peux rien faire. Et on a encore vu d'ailleurs ses limites et tactiques et dans la gestion d'une rencontre contre le Brésil samedi soir à Wembley. La première défaite à Wembley depuis 21 matchs pour les Anglais qui, sincèrement, auraient dû perdre 3-0 et pas 1-0 simplement. Donc voilà, il sera là quoi qu'il arrive. Je préférais plutôt, je sais qu'il écoute l'émission, Gareth.
Bien sûr, on
bien sûr, avec son français, il est complètement bilingue. Je préférais qu'il se concentre plutôt sur la liste qu'il va appeler, les 23 joueurs, et encore plus sur les 11 qui devraient débuter l'Euro, ou en tout cas qui joueront les matchs les plus importants. Donc par exemple, je ne veux pas avoir d'Harry Maguire dans cette équipe. Pour moi, c'est plus possible maintenant. On a encore vu les erreurs contre le Brésil, notamment celle... face à Rafinha, dont Rafinha n'a pas pu profiter. Je veux pas voir Jordan Henderson non plus. Et ceux qui pourraient me dire l'argument, oui, mais c'est des joueurs expérimentés qui sont là depuis longtemps. Peut-être, mais j'en ai rien à faire. Tu gagnes pas une compétition. La plupart de ces joueurs-là qui jouent dans cette sélection-là sont expérimentés. Puis ils sont peut-être pas aussi âgés que Maguire et Henderson, mais ils sont très expérimentés aussi. Je préférais largement avoir un Jude Bellingham qui a certes que 20 ans, donc 13 ans de moins que Jordan Henderson, que le Jordan Henderson que je vois actuellement à l'Ajax, que Johan voit aussi toutes les semaines, et qui pour l'instant en tout cas ne sert pas à grand chose dans cette équipe de l'Ajax. Après oui, qu'il soit là sur le banc dans la vie du groupe, etc., peut-être, mais en tout cas chez les titulaires, je veux pas non plus de Harry Maguire. Après, j'aimerais par exemple qu'un Kobbie Mainoo, qui est la révélation de la saison en Première Ligue, qui fait des très très belles choses à Manchester United, même s'il n'a que 18 ans, il aurait déjà dû jouer contre le titulaire contre le Brésil. Il aurait déjà dû être appelé dans le groupe dans le groupe initial de cette équipe d'Angleterre pour ces deux matchs amicaux-là, alors qu'à la base, il était avec les U21. Et Southgate s'est dit à un moment, oulala, en fait, j'ai fait une erreur et tout le monde est en train de me tacler là-dessus. Je vais la rappeler, il va venir avec moi, on va le faire jouer chez les grands. Mainoo aurait dû être titulaire contre le Brésil. Il devrait être titulaire, selon moi, à l'Euro aussi, avec Rice, avec Bellingham, avec un Phil Foden aussi, mais qu'il ne faut pas faire jouer sur un côté sans qu'il puisse prendre part au jeu comme il devrait le faire. Je l'ai répété hier, je l'ai dit aussi samedi dans les émissions sur RMC, le fait que Phil Foden n'ait touché aucun ballon dans la surface brésilienne samedi soir est une aberration. C'est ridicule et ça montre encore l'incompétence du Sylvain Ripoll anglais, mais c'est pas grave. Et encore une fois, il est là, il va rester jusqu'à l'Euro.
Julien, t'es quand même finaliste du dernier Euro, tu fais partie des favoris là, on va peut-être le juger sur ce qu'il va faire là, non? Ou pour toi c'est vraiment mort pour Southgate?
Non, mais moi je pense qu'il peut gagner, bien sûr, ils peuvent gagner. Il faudra que lui change un petit peu sa façon d'entraîner cette équipe, ses choix, qu'il soit sûrement plus courageux à certains moments, qu'il soit surtout meilleur tactiquement. Moi, tout ce que je souhaite, c'est qu'il ait appris des erreurs du passé, qu'il ait appris de ce qui s'est passé contre les Bleus au Qatar, qu'il ait appris de la défaite, certes au tir au but, mais défaite quand même contre les Italiens alors qu'ils menaient au score chez eux à Wembley dans leur Euro. Qu'il ait appris aussi de la demi-finale perdue en 2018. Moi, j'ai envie qu'il ait appris de tout ça. Et la seule façon pour voir s'il a appris de ces erreurs-là, c'est ce qui va se passer à l'Euro. Ils ont un groupe... Ils ont un groupe très abordable pour eux qui va leur permettre de monter en puissance au fur et à mesure des
Slovénie,
trois matchs de poule.
Slovénie, Danemark, Serbie, hein, je rappelle.
Voilà, exactement. Donc, je suis désolé, mais c'est cadeau. Hein. Franchement, c'est cadeau. Ils vont régaler. Mais comme ils ont régalé aussi à la Coupe du Monde, hein, c'était un groupe facile. Ils sont sortis, on les voyait très beaux. Même moi aussi. Rappelez-vous, dans les studios long de la corniche au Qatar, à Doha. Et pourtant, ça s'est arrêté très tôt contre les Bleus parce qu'ils n'avaient pas ils n'avaient pas cette mentalité de vainqueur. Ils n'avaient pas cette rage d'aller chercher une victoire. Et on a vu tout de suite que de toute façon, ils n'étaient pas, même s'ils ont fait un bon match, ils n'étaient pas encore au niveau pour battre une équipe comme l'équipe de France. Là, j'espère qu'ils ont tous appris tout ça, surtout Southgate, mais aussi les joueurs, et qu'on verra une très belle équipe d'Angleterre. Mais pour moi, Maguire, Henderson, ça ne peut plus être dans l'équipe titulaire. Ça, c'est sûr. Ça doit sortir de ces 11 titulaires.
En revanche, il y a un titulaire pour lequel tu t'inquiètes, toi, Fredon.
Alors, c'est pas moi. Bah, aussi, je m'inquiète un petit peu parce que je l'aime bien. Mais du côté du Real, on s'inquiète de la dureté des adversaires brésiliens. Sur Jude Bellingham. Alors je ne sais pas si en Angleterre on en a parlé de ça, parce qu'on a estimé, parce que bien entendu maintenant l'Angleterre est extrêmement suivie à cause de Jude Bellingham, comme la France et le PSG à cause de Kylian Mbappé, et on a l'impression que Jude Bellingham devient une cible pour les adversaires. Donc du côté du Real, on s'inquiète de voir ça. Voilà. Est-ce que ça s'est dit en Angleterre? Au moins, est-ce que ça s'est vu?
Tout le monde là, si tu regardais le match, ils ont fait 19 fautes, les Brésiliens. Paqueta, lui tout seul en première période, je crois qu'il en a 8 ou 7. Il prend un carton jaune à la 40e ou 42e alors qu'il aurait dû être averti dès la 10e minute. Pas forcément par la... C'était pas des fautes, des grosses fautes très sérieuses, trop agressives, etc. C'est juste le nombre de fautes qu'il fait, et surtout sur Bellingham.
Il a 5 fautes clairement, oui.
Donc après, quand tu joues en plus contre João Gomes, qui est quand même pas un très bon joueur, hein, qui fait une très belle saison à Wolverhampton, qui est pas un enfant de cœur non plus. Après, c'est compliqué. Donc surtout quand tu le fais jouer dans une position, en fait, plus tu le fais jouer haut, et plus il prendra des coups. C'est aussi simple que ça. De toute façon, c'est tout à fait logique. Et plus tu le feras jouer peut-être un petit peu plus bas, et plus il aura déjà, un, le jeu face à lui, et deux, il aura affaire dans sa zone à des joueurs qui seront sûrement moins agressifs qu'un João Gomes, par exemple, voire même qu'un Paqueta. Mais Paqueta, c'est pas un joueur agressif, mais Paqueta, il aime quand même, il va au contact, il va au duel. C'est un joueur qui aime ça beaucoup plus qu'un Bruno Guimarães, par exemple. Donc, oui, c'est vrai que les Anglais en ont pas mal parlé. Lui, d'ailleurs, s'est beaucoup plaint à l'arbitre. Ah, c'est un match amical, mon Fredo. Je pense que dans un vrai match, Paqueta, il prend un rouge au bout de la 30e minute. Enfin, tu vois, il prend un jaune après 10 minutes, il fait pas les 4 ou 5 autres fautes qu'il fait en première période à la suite. Mais oui, c'est vrai que. Mais t'as raison, mais même en championnat, je le vois aussi.
Ça commence, hein. On le voit tellement aussi, que.
En tout cas, Juju, sache que sur le chat de la chaîne YouTube de l'After, beaucoup te trouvent très dur avec Southgate. Johan, très vite, vas-y, tu te
demandes. Non, ouais, pour Julien, je voulais lui demander ce qu'il avait pensé de l'équipe du Brésil. Parce que moi, j'ai vu une partie du match et franchement, il n'y a pas plus équipe européenne maintenant.
Ah bah, c'est ça fait quelques années, même, j'ai envie de te dire déjà.
C'est extrêmement décevant, hein. Mais c'est même de pire en pire, je trouve.
Ouais, je suis assez d'accord.
Et j'étais assez déçu de la globalité du match, même s'il y a eu des occasions et que c'est assez divertissant. Sans regarder, mais j'ai pas été impressionné par le niveau des deux équipes.
Non, mais après, juste pour finir, je te trouve un peu dur avec le Brésil. Ils ont beaucoup d'absents, ils ont une défense qui ressemblait à rien. Bruno, il a rien à faire là, par exemple. Wendel, c'est un bon latéral, mais dans le sens où ils n'avaient jamais joué ensemble, Beraldo a plutôt été bon. Après, quand tu as Bruno et Paqueta dans ton équipe au milieu de terrain, ça fait quand même beaucoup de bien, parce que c'est quand même assez incroyable de les voir contrôler le ballon avec la semelle, comme ton ami Deserbi a dû kiffer, pour reprendre l'expression de Polo. moi, elle me plaît quand même dans sa transition offensive et dans les, on va dire, à partir du moment où ça traverse le milieu de terrain. Après, oui, c'est vrai qu'il y a encore des lacunes, notamment dans la construction du jeu, mais pour une première pour Dorival Junior, j'ai trouvé que c'était pas trop mal.
Allez, dans un instant, le souhait de Johan Crochet pour l'Italie, pour l'Euro. Venez poser vos questions aux drôles de dames, hein, comme chaque lundi d'ailleurs, sur RMC. On vous attend au 32-16. Max est là, tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Villas.
20h18, vous êtes sur RMC comme chaque lundi avec les drôles de dames. Voilà, comme chaque lundi, vous venez poser vos questions aux drôles de dames 32-16. Les souhaits, nos drôles de dames pour l'Euro. Place au tenant du titre, l'Italien Johan Crochet. C'est quoi ton souhait pour la nationale et pour l'Euro, Johan?
Les deux matchs amicaux qu'on a eu aux États-Unis, une très belle tournée financière qui a bien marché pour le business et aussi pour toute la diaspora italienne présente aux États-Unis, parce qu'ils avaient choisi en plus Miami et New York, qui sont deux des plus grosses communautés italiennes aux États-Unis, ce qui a donné lieu d'avoir des très belles images et des très belles rencontres entre supporters et joueurs. Il y a eu surtout beaucoup de tests de la part de Luciano Spalletti, notamment de tests de joueurs déjà et de tests de schéma, parce qu'on sait que depuis quelque temps, il a envie de travailler sur une défense à 3, 3-4-2-1, parce que beaucoup de joueurs en club évolue dans ce système-là, premièrement. Deuxièmement, parce que ça pourrait combler certaines lacunes sur le plan offensif, et notamment le fait que sur les ailiers, Berardi blessé, Insigne n'est plus là.
Qui est quand même le gros problème de l'Italie, hein, depuis quelques temps, non?
Ouais, parce que tout le monde parle de l'avant-centre, mais moi je trouve que sur les côtés, c'est le désert, quoi. Mais vraiment, hein, donc si aujourd'hui vous parlez d'un 4-3-3, en gros, à gauche, tu peux estimer que c'est Zakaï et El Shaarawy, les deux plus probables, et à droite ça serait Chiesa et Zaniolo. Moi je mets Chiesa à droite, parce que vraiment à droite, ouais, sinon c'est que Zaniolo et c'est compliqué. Donc on est quand même assez loin d'un très très haut niveau, et donc ce 3-4-2-1 permettrait d'avoir des joueurs plus dans l'axe, et comme il y a beaucoup de milieux de terrain en Italie, c'est sans doute le seul secteur où ils sont plutôt bien, ça permet aussi de densifier, de mettre plus de talent à ce niveau-là. Et donc dans les expérimentations ou dans les choix qui ont été faits, j'ai un je veux et un je veux pas. Dans le je veux à l'Euro, c'est Lorenzo Pellegrini, parce que justement dans cette abondance de milieux de terrain, il y en a pas beaucoup qui ont sa qualité technique, sa vision du jeu et sa créativité. C'est pas un créatif à la un joueur très dribbleur, etc., qui va percuter, etc. C'est plus un passeur qui, sur un pas, va se faire une petite balle lobée par-dessus la défense, ou qui va trouver l'intervalle entre le latéral et le défenseur central, qui va vraiment offrir des ballons de but à ses attaquants. Et notamment hier, c'était hier, le match contre l'Équateur, ouais. Il met un petit ballon lobé pour Raspadori, il est exceptionnel ce ballon, il n'y a que lui qui est capable de faire ça. En plus, dans les avantages, tireur de coup de pied arrêté, le meilleur, donc c'est très important, direct ou indirect, d'ailleurs corner ou coup franc direct, hein, il a marqué plusieurs coups francs directs également. Capacité à tirer de loin. D'ailleurs, le but qu'il met contre l'Équateur, c'est une frappe du gauche extrêmement puissante. Mais la Roma a sorti il n'y a pas longtemps les 50 buts de Pellegrini sous maillot de la Roma. Il y a beaucoup de frappes de l'extérieur de la surface, pied droit, pied gauche. Et ça, c'est important. Dernier élément qui peut être aussi important, c'est sa polyvalence. Parce que Spalletti a travaillé sur le 3-4-2-1. Mais on a aussi, comme le 4-3-3, la deuxième partie du match contre le Venezuela, qui était le premier match amical de cette tournée américaine, il l'a fini en 4-3-3. Et Pellegrini peut jouer 10 derrière l'attaquant, le fameux trequartista en Italie, où il peut jouer relayeur dans un milieu à 3. Donc c'est aussi un joueur qui peut convenir aux deux systèmes qui sont travaillés par Spalletti. Donc ça, c'est le côté « je veux », parce que c'est un joueur... Il n'y a qu'un profil comme ça en Italie, et on en a besoin, parce que sinon, ça manque de talent, de classe, tout simplement.
Et qu'est-ce que tu veux pas, alors?
Je veux pas, c'est Zaniolo, parce que c'est trop compliqué, parce que Julien pourrait en parler, hein, sa saison à Aston Villa, c'est très compliqué, parce qu'il marque très peu, il fait jamais de passes décisives, parce qu'il dribble très peu, il réussit très peu de dribbles, parce qu'en plus, le QI football est quand même pas le plus élevé, clairement pas, en dehors des terrains, c'est pas le saumon le plus oxygéné de la rivière non plus, donc c'est...
J'adore cette expression.
C'est, c'est un peu compliqué, tu sais jamais trop à quoi t'attendre avec lui, il râle tout le temps, il fait beaucoup de fautes, quand il estime qu'il y a faute sur lui, il s'arrête tout de suite de jouer, où il tombe à terre. Enfin, c'est vraiment pas un... Il a jamais progressé. Alors, il a eu deux grosses blessures. Il faut faire attention, évidemment, à ça. Hein, mais au niveau personnalité, caractère, etc., il a jamais fait le step qui aurait dû lui permettre de s'imposer dans cette équipe-là par rapport à tous ses débuts avec la Roma où il était assez extraordinaire. Et je veux pas non plus de... qui a été très décevant sur le match contre le Venezuela, Buongiorno, le défenseur du Torino. Alors, comme par hasard, donc défenseur du Torino. Torino appartient à Urbano Cairo, le président du Torino, propriétaire, qui possède donc la Gazzetta dello Sport.
Alors ça, c'est ouf, ça. Ça, c'est quand même dingue. Le mec, il est président du Toro et il est proprio de la Gazzetta.
Du RCS Group. Et donc de la Gazzetta
majoritaire de la Gazzetta,
la Gazzetta ouais. De sport. Il y avait d'ailleurs à l'époque, je ne sais pas s'il y a toujours de Marca, non,
c'est Marca, ah bah c'est, ou bah c'est toujours Marca,
toujours.
C'est toujours Marca,
ouais, voilà.
Il y a Marca, il y a Mundo, c'est-à-dire le El Mundo, pas le Mundo Deportivo,
oui,
le quotidien,
oui.
El Mundo, le quotidien, c'est l'information ça. Générale, qui est le deuxième du pays. Marca, qui est enfin ça dépend des régions, enfin bref, c'est avec AS, l'un des deux plus grands. Et c'est tu as raison. Alors ce qui est dingue, c'est que Marca en Espagne, alors que AS avait pris position en faveur de la Super League parce que le Real est en faveur de la Super League, Marca était bien emmerdé parce que comme le président du Torino était contre la Super League, ah oui. Marca, qui naturellement aurait dû être en faveur de la Super League, ne pouvait pas à cause de son propriétaire.
D'accord, ouais, c'est marrant.
Et donc la Gazzetta dello Sport a beaucoup travaillé, s'est creusé les méninges pour trouver des joueurs moins bons que Buongiorno sur le premier match, parce que ça ne faisait pas de mettre
Buongiorno sur les notes et tout.
Ouais. Ah, ça ne faisait pas de mettre Buongiorno comme pire joueur du match, alors qu'il s'est fait laver par les attaquants vénézuéliens pendant tout le match.
C'est ouf.
Et donc, il a été pas bon, et c'est une vraie question parce qu'il y a le cas Acerbi dont on a parlé la semaine dernière, accusé de racisme par Juan Jesus. S'il prend des matchs de suspension, il y a très peu de chances que Spalletti le convoque pour des raisons éthiques. Et donc, ça fait un joueur de moins dans ce secteur-là, et c'est un joueur clé Acerbi. Donc, Buongiorno peut avoir une place dans ce groupe-là. Mais moi, entre Buongiorno et Calafiori, le défenseur de Bologne, tous les jours, je vais sur Calafiori. J'étais un peu déçu d'ailleurs qu'il soit pas appelé. Donc voilà, les jeux et je veux pas pour l'Euro.
Et juste une question quand même, parce que c'est un peu le paradoxe. Tout à l'heure, on se marrait là-dessus avec Fredo, mais l'Italie a raté les deux dernières Coupes du Monde. Ils ont remporté l'Euro entre les deux Coupes du Monde. C'est quoi l'objectif de l'Italie pour l'Euro alors?
Ils sont dans la poule la plus difficile.
Ouais,
avec l'Espagne, la Croatie et l'Albanie. Le seul avantage que tu peux avoir, entre guillemets, c'est que tu commences par l'Albanie. Attention, c'est une très belle équipe, hein, maintenant, l'Albanie, qui a beaucoup progressé. Mais...
Enfin, avantage, oui, non, ça veut dire que tu dois marquer des points d'entrée, quoi.
Oui, mais si tu bats l'Albanie en premier, tu as beaucoup moins de pression derrière. Mais... Et comme il y a les quatre meilleurs troisièmes qui passent.
Il y a les meilleurs troisièmes qui passent.
Tu sais qu'avec un match nul contre la Croatie ou l'Espagne, normalement, tu es dans les meilleurs troisièmes. Donc ça peut passer. Mais tu n'as forcément pas d'énormes ambitions. Mais je rappelle que l'ambition au dernier Euro, c'était pas de remporter. Hein.
Ouais, ouais.
C'était déjà de passer la phase de groupe, 8e quart, on voit comment ça se goupille, le tirage au sort, etc. Donc on sera à peu près sur le même concept, parce que finalement, tu n'as pas du tout réussi à capitaliser sur l'Euro 2021, puisque tu n'es pas allé au Mondial qui suivait 18 mois après.
Elle te fait flipper, les Espagnols, l'Italie ou pas?
Ah bah c'est le groupe.
Oui, généralement, mais pas forcément l'Italie plus que ça.
Quoi. Non, mais non, parce que l'Italie est toujours respectée en Espagne.
Ouais.
C'est culturel. Franchement, je pense qu'en Italie, l'Espagne, vraiment, personne ne va prendre l'Italie.
Mais l'Italie ne peut jamais pas faire flipper aujourd'hui. Enfin, je veux dire, elle n'a pas le matériel pour faire flipper.
Mais quand même,
les
pas flipper quand ils ont gagné l'Euro.
Ne pas faire flipper, ça ne veut pas dire ne pas être performant.
Oui, et puis ne pas respecter.
Oui, c'est pour ça, il n'y aura pas de dédain des Espagnols. Et puis la Croatie, ça fait peur aussi.
Bah, moi, je mousse. Alors, tu voulais rendre hommage à un président qui a marqué le foot espagnol et dont on a appris le décès hier.
Alors, vous savez, moi, tous les week-ends, je pense à la musique que je vais mettre le lundi.
Ah oui.
Et je me suis rendu.
C'est dommage que tu ne penses pas aux chroniques aussi. Mais
Ah bah écoute, je ne peux pas tout faire. Hein, Et je me suis dit, c'est fou. Ça fait deux ans maintenant, deux saisons que nous faisons la musique et je n'ai jamais mis le plus grand chanteur portoricain de. Voilà, en musique, Roger Feliciano, avec une chanson absolument merveilleuse qui s'appelle La Copa Rota. Donc voilà.
Qui veut dire
c'est le verre brisé.
D'accord.
Mais la Copa, c'est aussi la coupe.
D'accord.
La coupe. Et Manuel Ruiz de l'Opera, qui vient de mourir, le président du Betis, sa grandeur de gloire, c'est la coupe d'Espagne. Vous savez, le foot, c'est surtout dans les pays qui aiment vraiment le foot, où le foot est la folie, les présidents sont parfois plus importants que les joueurs.
Ouais.
Et Manuel Ruiz de l'Opera, franchement, on a beaucoup parlé depuis l'annonce de son décès et chacun s'est souvenu des anecdotes. C'était un monsieur extrêmement truculent. Quand il racontait les histoires qu'il avait avec les joueurs.
C'est années 90-2000, hein,
ouais, pour vous restituer les plus jeunes. Exactement. Alors, c'est un monsieur qui aimait bien, qui s'aimait bien aussi. Il avait quand même, alors, il était propriétaire du club, mais les sociaux sont votés que le nom de.
Ça, c'est fou, ça. Le mec à l'époque avait dit. Je veux marquer l'histoire du club. Il a fait voter aux sociaux le changement de nom du stade.
C'était les actions au conseil d'administration, sauf que les actions c'était à lui. Donc ils ont changé le nom. Il dit, moi j'ai rien voulu. Donc pendant plusieurs années, le stade s'est appelé et Manuel Ruiz de Lopera. Et après il est redevenu Benito Villamarín, quoi, tu vois. Donc c'est bon. Mais c'est quelqu'un qu'on aimait bien parce que. Alors, il y a des anecdotes, elles sont extraordinaires. Il y avait un joueur qui s'appelait Benjamin. Benjamin, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les années 2000, 90-2000, qui est un joueur hispano, à moitié espagnol et d'origine aussi de Guinée équatoriale, qui était un type qui aimait bien faire la fête. Et c'était Halloween 2001. Le président, qui aimait bien contrôler les joueurs, apprend qu'il y a une fête d'Halloween organisée chez Benjamin. Donc, il va voir Juan de Ramos, vous vous souvenez de l'entraîneur, il dit, bien sûr, on y va. Et après, le plus drôle, c'est comment il raconte ça à la radio deux jours après. Alors, je peux pas faire l'accent andalou, mais en plus avec l'accent andalou, c'est excellent. Il dit, voilà, j'entre. Et là, je vois qu'il y a quand même beaucoup de jeunes filles en train de faire des activités physiques. pas très. Non, mais il raconte ça à la radio et tout. Et là, les joueurs commencent à halluciner. T'en as certains.
Parce qu'il n'est pas invité,
il n'est pas invité. Ouais. Et puis en plus, ils vont faire des fêtes comme ça en pleine nuit, alors que c'est des joueurs professionnels. Certains joueurs passaient par les fenêtres, par le balcon pour pas se faire choper. Et le mec, il raconte ça dans le Larguero, la grande émission de radio deux jours après, quoi. Enfin, c'est des trucs comme ça. C'est aussi celui qui est en guerre absolue contre Séville. Qui déteste le président de Séville, tu vois, c'est vraiment un moment de forte tension.
Et qui Del Nido à l'époque déjà.
C'était Del Nido et il y a la mort d'Antonio Puerta. Ah et oui. Là, il y a parce qu'en Espagne, vous savez, la veillée funéraire, c'est on enterre les gens le lendemain, donc c'est à partir de la mort. Il y a toute la nuit, on veille les morts et le lendemain, il y a l'enterrement. Et en fait, la veillée funéraire se fait avec plein de public au Sanchez-Pizjuan. Et là, contre toute attente, arrive l'opéra, l'entraîneur et tous les joueurs. Venir le corps et rendre hommage. Donc voilà, il y a plein d'images dont on se souvient quand on parle de Manuel Ruiz de Lopera.
Il y a une chose plus terre à terre aussi, mais pour moi, surtout ce président, c'est Danielson en 98, record le plus cher de l'histoire à l'époque.
Exactement. Et
qui les 212 millions de francs.
Est un flop.
Et qui est un joueur quand même.
Oui, parce que c'était trop cher pour le Betis. D'ailleurs, après, il y a eu plein de problèmes de fric. Le Betis est redescendu en deuxième division. Voilà, le Betis, je crois que c'est sous sa présidence que le Betis joue. Oui, c'est bien ça. Joue la Ligue des Champions, mais c'était trop gros pour eux et ils descendent en deuxième division la saison suivante. Donc voilà. Alors c'était pas toujours un modèle, mais il fait partie de ces présidents qui marquent une histoire dans un pays qui adore le foot comme Espagne.
C'est l'alerte, c'est le moment de vous inscrire pour ouvrir le coffre RMC. Si vous voulez tenter de gagner 50 000 euros grâce au coffre RMC, vous envoyez à partir de maintenant coffre par SMS au 732-16. Coffre par SMS au 732-16. Vous avez 5 minutes pour vous inscrire. L'un ou l'une d'entre vous sera avec nous vendredi 29 dans l'émission pour ouvrir le coffre RMC et peut-être remporter la somme de 50 000 euros. Bonne chance à vous. Suite des avis, des souhaits de nos drôles de dames pour l'euro. Vous allez voir que Polo rêve d'un autre euro pour nous, pour vous, pour nos enfants. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Villas.
20h34, vous êtes sur RMC. Merci d'être avec nous, avec nos drôles de dames. Johan Crochet, Fred Hermel, Julien Laurence, Polo Breitner. Le 32-16 vous attend. Max est là, venez poser vos questions comme chaque lundi aux drôles de dames. On est en pleine trêve internationale. On en profite pour demander à nos drôles de dames ce qu'elles souhaitent pour l'euro. Un euro qui se jouera en Allemagne du 14 juin au 14 juillet prochain, qui sera à suivre en intégralité sur RMC avec notamment nos drôles de dames. Un euro qui depuis 2016 réunit 24 nations en phase finale. Alors une formule élargie. Je le sais, mon Polo, qui te plaît pas des masses, et tu voulais lancer un débat, poser une question à notre drôle de dame. Quel euro souhaitons-nous ? Vas-y, explique-nous ça, mon Polo.
Si tu veux, moi je suis né dans les années 70. Je me rappelle à un moment, je m'excuse de raconter la vie de mon père et de moi. J'étais tout gamin, je devais encore manger de la soupe, et on avait une vieille radio, et à l'époque on entendait les tirages à la radio. Et mon père s'énervait, disait surtout pas les Diables Rouges. Les Diables Rouges, je savais pas que c'était la Belgique à l'époque, j'étais trop petit. Et pendant des années, d'ailleurs, j'ai cauchemardé parce que j'ai pensé qu'il y avait des petits diables, des diablotins qui sortaient de la radio.
Et, c'est bon ça.
Mais c'est vrai en plus. Mais si tu veux, c'était juste pour se qualifier pour un potentiel euro. En 1980, il y avait que 4 équipes, il y avait des barrages avant, par exemple, des choses comme ça. Aujourd'hui, on est à 24, donc on est dans le gigantisme actuel, etc. En plus, ça avait rajouté à la société du divertissement. Et on se retrouve à l'Euro avec un groupe où il y a par exemple la Belgique, la Slovaquie, la Roumanie, et puis un barrage avec l'Islande et l'Ukraine. C'est assez fabuleux, ça me fait kiffer, pour employer ton terme, et je trouve ça, j'attends ce groupe avec impatience, tu vois. En 2016, lors de ce premier Euro, j'avais le Portugal, et puis j'avais l'Autriche, j'avais l'Hongrie, et puis j'avais l'Islande aussi, donc c'était passionnant, évidemment, le niveau sur le terrain était fabuleux. Et en fait, l'histoire de l'Euro, c'était considéré comme la compétition la plus dure du monde. D'ailleurs, on disait, la Coupe du Monde, qu'est-ce que c'est qu'une Coupe du Monde? C'est l'Europe, plus le Brésil et l'Argentine. Mmh. Aujourd'hui, on a tué complètement les qualifications, on a tué les qualifications. C'est-à-dire que pour les grandes nations, c'est une caisse enregistreuse. On invite quasiment tout le monde à cet euro. Moi, je me rappelle encore à l'euro 2016, ce qui était le plus passionnant, c'était les reportages des journalistes sur le clapping islandais. Super intéressant, en fait.
Ils aiment pas les Islandais, j'ai l'impression. Hein.
Non, mais on en est arrivé là, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on parle même plus de football. Donc, c'est aussi l'une des raisons pour que je dis que le sport, on en parle de moins en moins. Que toutes les grosses nations doivent être à l'euro, évidemment. Elles n'ont plus le droit de se planter. D'ailleurs, on les récupère de toute façon. Un petit peu comme si Djokovic jouait Roland-Garros, il perd au premier tour, puis attends mon gars, on t'a offert une petite fenêtre pour que tu puisses venir. Donc, et finalement, on se retrouve...
D'ailleurs, mon boulot, attends, je te coupe deux secondes, juste je fais une parenthèse là-dessus. Je reprends d'ailleurs les propos, puisque tu parles de ça, on pourrait presque ouvrir le débat sur les troisièmes de groupe de Ligue des Champions qui sont reversés en Europa League, c'est-à-dire les perdants peuvent gagner. Quoi.
Mais c'est pour une raison très simple. C'est que plus il y a de pays qui restent, plus il y a de droits télé qui sont vendus, donc plus d'argent pour l'UEFA et l'UEFA.
Surtout les gros pays.
Surtout les gros pays.
Le Mondial 2022, ils n'étaient pas contents qu'il n'y ait pas l'Italie.
Ah bah tu m'étonnes.
Vas-y, Polo.
Je finis juste là-dessus parce que l'année dernière, j'avais discuté avec un responsable de l'UEFA de ces questions-là. J'en disais, mais c'est débile. Donc évidemment, il me faisait comprendre le marché est comme ça et comme ça. À force de créer des générations de gens qui ne réfléchissent pas beaucoup, qui n'ont pas de culture historique sur ce qu'était le football et ce qu'il est aujourd'hui, voilà où on en arrive. Moi, je n'ai pas de problème à ce que l'Islande soit un euro. Mais si tu veux, pour reprendre l'exemple de l'euro 2016, j'ai aucun souci avec l'histoire du Portugal, qui est c'est une nation que j'aime beaucoup au football, plus que les Pays-Bas d'ailleurs, et qui est toujours derrière dans la médiatisation, alors que pour moi elle est devant. Mais si tu veux, ce qui m'intéresse, c'est pas d'avoir un groupe où j'ai Portugal, Autriche, Hongrie et puis l'Islande. Moi, c'est pas que je veux pas et l'Autriche et la Hongrie et l'Islande, je veux ou l'Autriche ou la Hongrie ou l'Islande. C'est pas la même chose. Et on se retrouve avec des matchs qui sont souvent extrêmement moyens. D'ailleurs, les derniers euros n'étaient pas extraordinaires. On refuse, en fait. On refuse que des grosses nations tombent pendant les qualifications. Et je pense qu'on a le droit de réfléchir sur le produit de la qualification. Et je le dis aujourd'hui, pour les grosses nations, ce ne sont que des caisses enregistreuses. C'est tout. Il faut essayer de trouver une autre façon. Tu vois, j'ai même pas envie de penser à l'Afrique qui a des qualifications tellement difficiles. Et à la rigueur, c'est plus difficile de se qualifier que de gagner le tournoi final. Alors qu'en Europe, franchement, les qualifications n'existent plus. Moi, qui suis pas un grand fan de la Nations League, de la Ligue des Nations, pardon, il y a au moins quelque chose qui est intéressant, c'est quand tu vois sur plusieurs générations cette compétition, tu vois le classement européen, en fait. Tu vois comme un classement européen des grandes nations.
Oui, t'as des divisions en fonction des niveaux.
Exactement. Ouais. Sauf que depuis 40 ans, on nous explique qu'Andorre doit jouer absolument contre l'Allemagne, que San Marin doit jouer contre la France, et puis une fois tous les 50 ans, San Marin va faire un nul ou gagner un match, et là on dit, vous voyez que c'est formuleux. Alors, en fait, il n'y a rien. En 40 ans, ils n'ont pas évolué, ils toujours 5, 6, 7, 8, 0. Donc toutes ces réflexions-là, si tu veux, font que cet euro, pour moi, est trop grand et que c'est pas si important. Pour moi, un euro, et on peut revenir à les victoires de l'équipe de France en 84, le premier que j'ai vraiment suivi, parce que j'ai des souvenirs de 80, mais c'est différent. Si tu veux, quand l'Espagne élimine, en plus à deux points, l'Allemagne à la 89e minute, ça voulait dire quelque chose. Quand on disait la France était le favori avec le Danemark, ça voulait dire quelque chose. Aujourd'hui, on va attendre les huitièmes, voire les quarts, parce qu'il y en a bien des gros qui vont finir troisième et donc aura un tirage un peu spécial, pour essayer de voir des matchs qu'on estime. Mais moi, c'est ça, l'euro. C'est pas la porte ouverte à toutes les nations.
Tiens, juste un truc. Je rappelle juste qu'il y avait même l'idée de la part de l'UEFA de faire un euro en 2028 à 32 équipes. Ça a été écarté pour des raisons économiques. Ce qui aurait voulu dire que sur 55 nations inscrites, il y aurait eu 32 nations qualifiées pour la phase finale.
Ouais, l'aberration, c'est pas juste en Europe. Hein. La prochaine Coupe du Monde.
Coupe du Monde à 48 équipes, ouais.
Il y a combien de nations sud-américaines sur combien qui vont être qualifiées
Ouais, ça, c'est complètement dingue. Ouais, t'as raison.
C'est hallucinant.
Ouais, c'est fou.
Mais là, en fait. Ça doit être générationnel, parce que moi, je suis né en 70 comme Polo. Moi, je me souviens très bien qu'on disait toujours qu'il était plus difficile pour une équipe nationale de se qualifier pour l'Euro que pour le Mondial.
Ouais.
Et dans les faits, c'était vrai. C'était vrai parce qu'il y avait moins de place. C'est-à-dire que c'était plus facile pour le Mondial. Voilà, ouais. Parce qu'il y avait plus de place pour le Mondial que pour l'Euro. Moi aussi, je suis pour un Euro resserré. parce que le, en fait, le pays, enfin, le continent qui donne le ton au football mondial, c'est l'Europe aujourd'hui. On est d'accord, bon, ça a toujours été, mais c'est vraiment ce qu'il y a de flagrant aujourd'hui. Tu disais tout à l'heure que le Brésil joue de plus en plus comme les Européens, c'est une évidence, quoi. Mmh. Donc en fait, ce serait l'Europe qui devrait montrer le chemin et limiter un peu les matchs, parce que là, on a une profusion de matchs en tout, c'est-à-dire des clubs, des nations. Il y aura le mondial des clubs qui va être créé, où la FIFA va se faire un fric dingue. C'est-à-dire que là, les équipes ont de bientôt on va devoir avoir des sélections à 40 joueurs et des clubs à 40 joueurs.
D'ailleurs, ils veulent élargir la liste. Hein,
oui, parce que c'est ouais. Ça, c'est quoi? C'est la réponse. Parce qu'ils commencent à se rendre compte que ce n'est pas possible physiquement pour les joueurs et même mentalement de jouer tous ces matchs-là. Parce qu'un euro, avec 32 nations, ça veut dire qu'il y a encore plus de matchs. Même à 26, il y a trop de matchs. Il y a trop de matchs. Donc au moins l'euro avant, il y avait un resserrement qui était plus représentatif du niveau du football européen.
Ouais, puis il y avait un autre jeu, un autre niveau aussi. Yoann, ton avis là-dessus?
Moi, je suis globalement d'accord avec tout ça. Il y a un seul truc qui me fait un peu tiquer, et j'y pense à chaque fois qu'il y a ce débat-là, c'est que l'élargissement a permis des supers histoires.
Du genre?
Du genre l'histoire des Pays de Galles qui font l'euro. Et sans cet élargissement-là, je pense qu'ils n'y seraient jamais parvenus.
Et qui font un bel euro en plus.
Et pour ces nations-là, effectivement, nous, dans notre costume de grande nation qui va souvent à l'euro, et si une fois elle n'y va pas, c'est pas trop grave, c'est un drame sur le moment, mais finalement, dans ton histoire, c'est pas si grave que ça. Et toi, tous les étés, enfin tous les deux ans, tous les quatre ans, je vais y arriver, tu fais l'euro et tu vis l'euro parce que ton pays est représenté, etc. Pour ces petits pays-là, y aller une fois, c'est un vrai événement, c'est un vrai truc où le temps s'arrête. Et où tu as une sorte de bouillon d'émotion, de bouillon de joie, etc., qui monte dans un pays qui n'aurait jamais connu ça. Mais globalement, je suis d'accord sur le niveau, le nombre de matchs, qu'on a tous envie de voir Italie-Espagne, Allemagne-France, ce genre de rencontres-là, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais...
Après, c'est pas ce que dit Polo. Part... Polo, il te dit pas qu'il veut voir Italie-Espagne. Il te dit qu'il veut bien voir l'Islande, mais il faut qu'elle mérite d'y être et qu'elle ait fait des qualifs.
Mais en soi, avec l'ancienne formule, il n'y serait jamais arrivé.
Permettre à l'Islande d'aller une fois tous les 20 ans à l'euro, on est obligé de casser tout le système. Tu vois ce que je veux dire? On est
obligé d'en mettre tout le système. Non, mais il faut vraiment réfléchir au système des qualifications. Si. Il y a un mec qui est un spécialiste des droits télé, des euros ou de la Coupe du Monde et te dit, mais de toute façon, on ne peut pas empêcher la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le Brésil, qui tu veux, à se qualifier pour une grande compétition, pour des raisons purement financières, mais au moins on peut lancer le débat, est-ce que c'est encore du sport? Et c'est autre chose. Et ça, faut pas compter sur moi. Moi, c'est ce que je pense depuis 20 ans. Quand tu vois l'évolution du truc, la Super League n'étant d'ailleurs au passage que l'arrivée de gros parts du gâteau du truc. Les autres n'ont pas le droit d'exister. Mais c'est pas nouveau. Moi, je suis pas contre. Il y a des nations qui sont trop petites, entre guillemets. Ce qu'on appelle les petites nations en France, c'est toujours d'une façon péjorative, mais c'est par rapport au nombre de millions de populations. T'as des cultures. La Croatie, c'est pas un tout petit pays en nombre, mais ils ont une énorme culture. Donc, ils arrivent à se qualifier. Est-ce qu'ils ont vocation à être systématiquement à l'euro? Je n'en sais pas. Ils ont des grandes, des petites générations. Mais on pourrait voir ça pour la Belgique aussi. Ça marche super bien pour la Belgique depuis une dizaine d'années. Il y a eu un trou générationnel énorme pour la Belgique pendant un moment. Et ça les a pas empêchés d'être à la finaliste de l'euro 1980. Les clubs belges, dans la fin des années 70, ils étaient quasiment tous en finale et même gagné des Coupes d'Europe. Donc, c'est des choses comme ça. Mais c'est de dire, ah oui, mais bon, alors un peu d'émotion. Ah, c'est génial, le clapping islandais, le truc, le ceci, le cela. Non, mais ça va, c'est juste le football, je voudrais juste avoir un niveau. Et vous avez posé une vraie question, je crois que c'est Fred, c'est est-ce que aujourd'hui, tout le monde, dans le monde justement, joue à l'européenne? Et moi, c'est un problème culturel aussi. C'est-à-dire que ce qui me plaisait, c'est de voir des Suédois qui font tous 1m90 et qui sont pas forcément très bons techniques, mais ont un côté physique extraordinaire. Et de l'autre côté, j'adore voir les Japonais parce qu'ils sont, même si c'est ce que j'essentialise, ils sont un petit peu plus petits et donc techniquement, ils sont plus intéressants à voir jouer sur le terrain. Si tout le monde joue à l'européenne, mais c'est une horreur.
Juste très vite, Julien, ton avis là-dessus?
Non, moi je suis pas du tout d'accord. Moi je suis très content quand il y a plus d'équipes, plus de matchs à couvrir en plus.
Parce qu'à l'oseille, c'est anglais.
Toutes les coupes du monde, voilà, moi j'aime voir des équipes qu'on n'a pas l'habitude de voir dans ces championnats. Sinon, ce seraient toujours les mêmes équipes. Je suis d'accord avec Johan. Ça me plaît bien que le Pays de Galles, que Gareth Bale, sinon, n'aurait jamais participé à une Coupe du Monde et à un Euro dans sa vie. Je trouve que c'est bien qu'il l'ait fait. Voilà. Moi, j'aime quand il y a beaucoup de matchs. D'accord, peut-être qu'au niveau du niveau général, tu as perdu un petit peu. Et encore, je ne suis même pas persuadé. Et voilà, moi, ça me plaît. Alors, bien sûr, il y a quand même la santé des joueurs qui est importante. Mais moi, sinon, non, je ne me plaindrai pas du nombre d'équipes à l'Euro ou à la Coupe du Monde.
Et ben voilà, comme ça chacun a donné son avis. Dans quelques instants, les souhaits de Fredo pour la Roja pour l'Euro, l'Espagne qui est en pleine crise niveau institutionnel notamment. Explication de Fred Hermel juste après ça sur RMC, à tout de suite.
RMC jusqu'à 22h, Génération After,
Nicolas Villas.
20h49, vous êtes sur RMC avec nos drôles de dames comme chaque lundi. On a demandé à nos drôles de dames au cours de cette semaine internationale de donner leurs souhaits, leurs avis sur leur sélection pour l'Euro. Mon frère Hermel, je me tourne vers toi. Qu'est-ce que tu souhaites pour la Roja pour l'été prochain?
Ma réflexion ne va pas être sportive, en fait. Pas purement sportive. Bien sûr que je souhaite que l'Espagne fasse quelque chose à l'Euro. Je pense que Luis de la Fuente est un sélectionneur qui, comme je l'ai déjà dit, ne pète pas plus haut que son cul. C'est-à-dire qu'il connaît ses limites personnelles, mais il connaît aussi les limites de son groupe. Parce qu'on n'est pas dans une grosse génération. Hein. Aucun, à part Rodri... Aucun joueur espagnol n'est dans le top 5 mondial. Tu prends le 11 de l'Espagne, voilà. Donc je souhaite que l'Espagne soit dans cette modestie qui lui a permis de... Cette modestie allègre qui leur a permis, par exemple, de remporter la Nations League, tu vois, la Ligue des Nations, tu vois, voilà, avec cet enthousiasme-là. Mais moi, Je souhaite que l'Espagne se calme autour du foot, quoi. Parce que là, c'est du n'importe quoi. Enfin.
Alors, il y a grosse
C'est-à-dire que là, on est. Moi, je suis professionnellement le foot espagnol depuis 31 ans. Match Real PSG de 93. Donc, ça fait 31 ans, quasiment jour pour jour, que je suis professionnellement le foot espagnol. Je n'ai jamais vu un moment de crise aussi grand. C'est-à-dire, il y a eu des crises institutionnelles. Il y a eu des crises financières, il y a eu des crises de tension, etc. Mais il n'y a jamais eu tout en même temps. Là, on va commencer par ce qui est le plus récent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Fédération espagnole, la semaine dernière, la Guardia Civil, la Guardia Civil, la gendarmerie, est allée à la Fédération espagnole,
perquisition,
est allée dans le domicile de six dirigeants du football espagnol, de la Fédération. Ils sont allés chez...
Pour des affaires de corruption présumées.
Alors, je vais expliquer. Ouais. Ils sont allés chez Luis Rubiales. Bon, ils ne l'ont pas chopé parce qu'il est en République dominicaine pour ses affaires.
Depuis un mois, dit-il.
Depuis un mois. Bon, il revient le 6 avril. Il a dit qu'il reviendrait. On commence à raconter en Espagne qu'il pourrait demander la nationalité dominicaine et rester là-bas. Non, mais je veux dire, voilà l'ambiance du foot espagnol. Pour, en gros, alors il y a tellement d'histoires, mais enfin, en gros, c'est malversation autour de la vente de la Supercoupe d'Espagne avec l'entreprise de M. Piqué à l'Arabie Saoudite. Ouais. Voilà, il y a des choses pas très claires. Peut-être des petites commissions un peu bizarres. D'après les soupçons de la Guardia Civil. Et puis, maintenant que la Cartuja, le stade olympique, le stade de Séville, comme maintenant c'est le siège de la Coupe du Roi, la fédération a fait des travaux. Bon, il paraît qu'il y a des entreprises un peu bizarres du cousin, du frère, du truc comme ça, bah, qui se sont occupées. Bon, bref, ça pue quoi. Ça pue, ça sent la bonne vieille corruption, la bonne vieille malversation. Donc, à tel point que aujourd'hui, on ne sait pas quand va avoir les élections, quoi, parce que le jour, mercredi dernier, où devait être annoncée la première phase de convocation des élections à la présidence de la fédération, bon ben les flics étaient dans la fédération, donc c'est reporté pour l'instant. Donc on ne sait pas quand il y aura les élections qui sont censées faire changer tout un système. Bon, après vous avez quand même une tension autour des arbitres qui est insupportable. C'est du délire. C'est vrai qu'ils sont très mauvais. Mais il y a une tension entre les vidéos du Real Madrid, la réponse des autres contre les vidéos du Real Madrid, voilà, les erreurs incroyables, etc. Voilà. Vous avez le racisme. On en parlera tout à l'heure avec Vinicius.
Avec Vinicius, ouais.
Parce que ce racisme, je suis désolé, quand vous avez des journaux comme Super Deporte, le journal de sport Provalence, qui fait comprendre en gros que Vinicius cherche bien à ce qu'on insulte. Voilà, c'est pas bon. Quand vous avez la plupart des clubs, à part le Real, qui sont dans un état financier terrible, qu'ils ne peuvent pas recruter. Parce que là, dépasse, il a raison de serrer la vis pour éviter que les clubs disparaissent parce que les dettes sont trop grandes. Quand vous avez un président de la fédération qui s'insulte avec le président du Real et d'autres clubs parce qu'il y a Super League et qu'en même temps celui-là il était en guerre contre le président de la Fédé qui lui-même est en guerre contre le président du Real, enfin voilà, il y a tout en même temps, il y a toujours eu des tensions dans ce pays-là, mais là on est vraiment à un moment horrible. Je me vois la une de Marca jeudi, c'était la honte quoi, il disait nous avons honte quoi.
Juste quand même, parce qu'on rappelle qu'en 2030 il y a une candidature Portugal, Espagne, Maroc pour l'organisation de la Coupe du Monde. Je peux dire qu'au Portugal il y a des papiers tous les jours, inquiète à se dire, est-ce que ça ne va pas porter préjudice à la candidature ? Est-ce que l'Espagne ne va pas faire plomber la candidature ?
Il y a de quoi s'inquiéter. Il y a de quoi s'inquiéter.
Portugal, ils sont loin d'être irréprochables.
Il y a des stades, faire, par exemple, on avait parlé à un moment du stade de, si je pas, du Sporting de Gijón. En fait, il n'y a pas l'argent pour le stade. Voilà, c'est encore fou. Et puis, il y a surtout ce projet qui inquiète beaucoup à Madrid, parce que tout le monde pensait que la finale allait être pour le Bernabéu, pour l'Espagne. La finale du Mondial 2030.
Mais ça pourrait être au Maroc finalement.
Bah, parce que le Maroc est en train de construire un super stade à 130 000 places, le plus grand stade du monde. Et en Espagne, on se dit, oh là là, et parce que c'est dans ces moments comme ça, dans ces moments-là, que le lobbying il compte, hein, là. Hein, que, mais là, il y a pas de tête. C'est un poulet sans tête, la Fédération espagnole. Il y a pas de tête. Donc le Maroc, très intelligemment, est en train de pousser ses pions pour être finalement peut-être le grand pays des trois pour l'organisation de ce mondial. Quoi.
Donc tu réclames, tu veux de la sérénité.
Moi, un peu de sérénité, quoi. Et un peu de sérénité, quoi. Voilà, c'est fou que par exemple. Brahim part avec le Maroc, donc tu as la moitié de l'Espagne qui accuse Brahim en disant t'es un traître, et puis t'as l'autre moitié qui dit Luis de la Fuente, l'entraîneur, tu fais n'importe quoi, c'est parce qu'il est du Real que tu le prends pas. Puis après, je vais vous dire un truc qui est quand même. Je sais bien qu'on est tous ravis de sortir du Real Barça, mais quand vous voyez le 11 de l'Espagne face à la Colombie défaite 1-0, et tout à fait logique, vendredi soir. Il y a, parmi les titulaires, il n'y a qu'un seul, un seul joueur du Real et du Barça. En plus, c'est un remplaçant qui s'appelle Rossellou.
Ouais.
Donc, il y a quand même. On n'est pas dans une période magnifique. Donc, moi, je voudrais un peu de sérénité et qu'on revienne à la base du football.
On va t'importer un peu de sérénité en musique, Manfredo. Ça me rappelle ce que Johan Crochet écoute dans sa Twingo, ça.
Et que Eros Ramazzotti a aussi
enregistré
en espagnol, hein, bien
sûr.
Exactement.
Alors pourquoi cette musique d'Eros Ramazzotti, la plus belle chose?
Ouais, exactement. Bah, c'était une chanson qu'il avait faite pour sa femme à l'époque. Et déclaration d'amour. Et un joueur dont les supporters de la Juve sont tombés amoureux, c'est Mathias Soulé. Il y a une vraie affection pour ce joueur-là chez beaucoup de supporters de la Juve. Et le problème, c'est que il est en prêt à Frosinone. Ça se passe très bien. Il est décisif, il est bon. On en a déjà parlé dans l'émission. Avec les espoirs argentins, je ne sais pas si vous avez vu son but, mais a priori, beaucoup de gens ont dû le voir. But assez extraordinaire. Un joueur de talent, un vrai diamant pour le coup. Sauf que la Juve est en train de se dire, est-ce qu'on ne le vendrait pas pour financer notre mercato ? Et ça a du mal à passer auprès des supporters parce que, comme je le disais, il y a un vrai attachement à ces jeunes-là. Il y a un vrai changement aussi chez les supporters de la Juve et où on fait de plus en plus attention à ces choses-là, aux joueurs que tu prends, que tu fais grandir, que tu as envie d'amener en équipe première. Il y a eu toujours quelques joueurs où tu faisais ça, mais là, il y a une concentration de talent à la Juve grâce à sa seconde équipe en troisième division italienne. Et comme c'est un peu un phénomène dans tous les clubs, hein, aimer beaucoup les petites pépites, comme on les appelle, les suivre, regarder même les matchs des équipes réserves, des U19, des U17, etc. Ils se sont beaucoup attachés à lui. Et en fait, ils n'ont pas envie de le voir partir.
Ils sont saoulés, tu veux dire ?
Oui, excellent. J'y avais pas pensé.
Ah, meilleur.
Et en plus, il y a même des anciens joueurs de la Juve, comme Takinardi, Alessio Takinardi, qui a pris position en disant mais non, il faut absolument pas que la Juve le garde, sinon on risque une Coman bis, Kingsley Coman. Qui avait été lâché pour 28-30 millions d'euros parce que ça permettait de financer certaines arrivées à ce moment-là. Sauf que là, Soulé, on parle quand même de 40 millions d'euros à peu près, parce qu'il y a beaucoup de clubs de chez Julien Laurence, hein, comme d'habitude, où ça sent l'oseille, qui aiment bien Mathias Soulé. Et c'est en train de devenir un vrai sujet de tension entre les supporters et la direction du club, en disant c'est hors de question que vous nous vendiez Mathias Soulé. Parce qu'en plus, ils se disent,
On a vu qui vous avez pris récemment en termes de recrues. Bon, on n'est pas trop impressionné non plus.
Et ben voilà, donc à suivre cet été.
C'est combien pour l'instant, tu penses?
40 000.
Là, c'est 40 millions. Alors, il faut peut-être que tu vendes ton Aston Martin et rajoutes un peu au bout, mais...
Et la maison de...
Je ce que je peux faire.
Mais non, mais ça, même Bournemouth, il le prend à 40 millions, t'inquiète, hein, c'est rien pour un club anglais, ça. Dans quelques instants, nos drôles de dames vont se mettre dans la peau de Xabi Alonso. Voilà.
Ah, j'adore ça.
Si vous étiez Xabi Alonso, vous feriez quoi l'été prochain? Il est annoncé à peu près dans tous les plus gros clubs d'Europe. Il est invaincu avec le Bayer Leverkusen, surpasse d'être sacré champion, engagé sur toutes les compétitions d'ailleurs, avec le Leverkusen qui ne sera plus Never dans quelques semaines, très certainement. Voilà, venez en débattre avec nous au 32-16. À tout de suite sur RMC.